Salut mon Fred.
Salut Dan.
Il y a un proverbe qui dit que ce sont les vainqueurs qui réécrivent l'histoire. Mais là, ça a l'air que nos Anglos sont pas du tout contents de la façon dont on enseigne notre histoire au secondaire.
En fait, c'est ouais, tout à fait. C'est un texte paru dans Le Devoir ce matin. Là, il faut dire que c'est une nouvelle, dans le fond, qui date de 2017. C'est juste que Le Devoir a mis la main sur les documents de tout cet épisode-là. En fait, c'est lors de la réforme du programme d'histoire en 2017. Et il y a les partenaires du réseau de l'éducation de la communauté anglophone qui ont participé aux travaux pour faire en sorte que l'histoire soit racontée différemment. Bon, moi, je suis un grand fan d'histoire. Je suis pas un historien de formation, mais j'ai toujours beaucoup lu, particulièrement sur l'histoire du Québec. Et c'est drôle parce que je suis en train de lire justement Fernand Dumont, Genèse de la société québécoise, grand livre sorti au début des années 90, sur l'histoire du Québec et comment ce récit, en fait, a encore des répercussions aujourd'hui. Parce que je sais que l'histoire, on a l'impression, c'est un sujet qui est moins important qu'avant, chez les jeunes, entre autres. C'est souvent une perception qu'on a. Moi, je pense que au contraire, c'est toujours important d'avoir un regard sur l'histoire. Évidemment, c'est une science qui n'est pas exacte. Et là, je veux pas mettre tout le monde dans le même... tous les anglophones, en fait. C'est vraiment... on parle des partenaires du réseau d'éducation de la communauté anglophone qui ont reproché à l'époque, donc en 2017, au ministère de l'Éducation de relater l'histoire du Québec à travers un cadre national. Évidemment, quand on dit cadre national, c'est les Québécois francophones.
C'est Stephen Harper qui nous a donné le statut de nation.
Oui, pendant un avant-midi.
Il l'a sorti après.
Non, mais ça n'avait pas beaucoup d'implication. Ce partenariat-là, en fait, inclut bon des directions d'école, des professeurs aussi. C'est plusieurs organismes, en fait. Et il trouve que bon, c'est trop centré sur l'évolution des Canadiens français et c'est une orientation, la réforme de 2017, donc qui a cours aujourd'hui dans les manuels d'histoire qui sont enseignés. Ne faisait pas la promotion de la diversité de la société. Et là, on est dans une époque qui remet beaucoup de choses en question sur le plan historique, et c'est parfois sain, je pense, de se questionner entre autres sur le rôle de Amherst. On en parlera tantôt, le changement dans la rue Amherst, sur le rôle de plusieurs personnages historiques. Mais je pense qu'il faut faire attention. Et là, dans ce cas-ci, faut dire aussi Le Devoir le dit là, ça a pris 172 jours pour avoir accès à ces documents-là, et selon la loi,
c'est 30 jours
habituellement. Soit on en reparlera peut-être cet été parce qu'il y a une réforme là, au fédéral qui est supposée de régler ce problème-là. Mais c'est, tout ça est politique. Bon, dans le texte du Devoir, on donne des exemples. L'Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec, donc qui fait partie des partenaires du réseau d'éducation, visiblement, qui regrette, par exemple, dans le cours d'histoire, de l'utilisation du terme « guerre de la conquête ».
Ils disent que c'est un siège.
Pour désigner le conflit qui a mené, c'est ça. Ils disent que dans le fond, c'est pas une volonté de conquête que les Britanniques avaient à l'époque. C'était vraiment... c'était un conflit entre deux empires coloniaux qui se passait loin et ça avait comme pas vraiment de répercussions. Et comme tu le dis, Dan, eux, ils préconisent en fait le terme... ce n'est qu'un siège, mais on parle quand même de fermes brûlées, d'exactions. On parle de violence.
Demander aux Patriotes, il faudrait demander surtout aux Premières Nations, ça serait assez intéressant.
Tout à fait. On parle de déportation des Acadiens, entre autres. On parle de tentatives coordonnées d'invisibiliser les francophones, que ce soit au Québec, à l'époque, qui était le Bas-Canada, ou en Acadie.
Ceux qui sont rentrés, ils ont pris toutes les jobs intéressantes, puis ils ont envoyé le Canadien français dans ce temps-là vers le bas, appuyé par l'Église.
Ça, c'est arrivé un petit peu après. Je peux comprendre... c'est peut-être pas le fun de retomber là-dedans. Je pense que l'idée aussi, quand on s'intéresse à l'histoire, c'est pas de réactualiser ça tout le temps et de rester dans une position victimaire de les Anglais nous ont conquis, puis encore aujourd'hui, on continue à ressentir ça. Mais de décider de gommer l'histoire comme ça, de changer le récit sur des faits, moi, je trouve ça très dangereux, sincèrement. Enfin, je trouve ça inquiétant.
Dangereux est peut-être fort. C'est parce que l'histoire, c'est censé, justement, comme ça le dit, nous faire comprendre notre histoire et non pas être un outil de propagande.
Tout à fait.
En ce moment, tout le monde décide de la propagande qu'ils ont envie de sortir.
Oui, c'est ça. Et là, on gomme des faits. Ce sont des faits. Bon. On en parlera peut-être plus tard aussi, mais il y a deux écoles par rapport à la conquête, même au sein même des historiens québécois, l'École de Québec, l'École de Montréal. C'est-à-dire que pour les historiens qui ont été formés à l'Université Laval pendant longtemps, la conquête n'est pas aussi traumatisante qu'on le prétend. Parce que oui, il y a eu des avancées, on peut le dire. démocratique, certaines avancées démocratiques grâce au régime britannique, abolition du régime seigneurial, ça a pris du temps, mais bon. Mais sauf que ça s'est fait souvent au détriment de la majorité francophone, on va se le dire. Bon, un autre exemple, l'oubli des patriotes anglophones de 1837-1838 par le ministère de l'Éducation. Donc, le regroupement trouve qu'on ne parle pas assez des... Puis c'est vrai que dans le Haut-Canada, il y a eu également... En fait, il y avait, dans les deux Canada, le bas et le haut, des récriminations envers l'Empire britannique. Sauf que les...
En fait, il y avait trois clans. Il y avait aussi les Américains.
Oui.
Puis qu'eux autres ont fini par foutre... Eux autres, ils n'ont pas la face de la reine sur leur pièce. Là.
Non.
Ils ont mené leur révolution. Oui. Ils ont installé leur propre constitution. Puis ils ont créé leur propre pays.
Oui. Mais dans la révolte... Sauf qu'en 1837, c'est déjà fait. On parle vraiment du bas et du haut Canada. Et c'est vrai qu'il y a eu des anglophones, mais dans le bas Canada, ça restait une lutte avec en majorité des francophones envers l'Empire britannique. Bon. On donne l'exemple de René Lévesque qui rentre bredouille. Ça, c'est les cours d'histoire. La réforme qui dit que René Lévesque rentre bredouille des conférences constitutionnelles précédant le rapatriement de la Constitution en 82. Et le regroupement dénonce que le texte laisse entendre que le Québec n'a retiré aucun avantage du rapatriement de la Constitution. On parle quand même d'un rapatriement unilatéral, mm-hmm. où le Québec n'a jamais signé cette... Évidemment, le Québec fonctionne là, encore aujourd'hui. Là. On n'a pas...
Oui, mais on n'a pas signé la Constitution.
Exactement.
On n'en fait pas partie. On n'est pas...
Et là, ces gens-là disent, ben, il y a quand même la Charte des droits et libertés assortie de la clause dérogatoire, la clause non-obstant, qui est arrivée avec ça, que c'est pas mauvais pour le Québec. C'est pas mauvais pour le Québec, sauf que cette charte-là a servi, entre autres, à limiter la portée de la loi 101. En fait, a servi à ce que les droits individuels prennent le pas sur les droits collectifs. Je dis pas que c'est une mauvaise chose dans l'absolu, sauf que c'était pas le choix de la majorité, je crois, francophone québécoise. Fait qu'on peut quand même, dans les livres d'histoire, le dire, et ce n'est pas... Et ce qui serait intéressant, peut-être aussi, ça serait dans les livres d'histoire, là, j'ai pas le document devant moi, mais oui, le Parti québécois, le gouvernement Lévesque a usé de stratégie aussi. Peut-être que le fait de s'installer à Gatineau, parce qu'on dit souvent, entre autres, que le gouvernement du Québec, à l'époque, en 82, s'est installé, ne voulait pas s'installer à Ottawa, symboliquement, s'est installé à Hull. Et là, il y a des réunions de coulisses qui se sont improvisées. Le Québec était pas là parce qu'il était à l'autre bord du canal Rideau et ça aurait joué éventuellement. T'sais, on peut, dans les livres d'histoire, parler de tout ça, nuancer. Je pense que c'est important de nuancer, mais là, on joue un petit peu sur les faits et j'ai de la difficulté à croire qu'on en est sorti gagnant.
Il y a quand même tous les autres premiers ministres qui ont fait un deal dans le dos du Québec.
Tout à fait. Sauf qu'il y a des gens, il y a des historiens qui disent « Ouais, mais c'est parce que le Québec n'était pas là. Le Québec était dans un hôtel à Hull et il n'était pas rejoignable, il paraît. »
Oui, non. Dans les séances de négociation, il était là tout le temps. S'il n'était pas là la nuit pendant qu'on vidait le minibar, on va quand même pas blâmer une constitution pour ça. Là.
Tout à fait. Alors, bravo. Tu remets les...
Excuse-moi, minibar, ça m'est remonté après 25 ans. Là.
Oui. Ben, je pense que c'est une époque où le minibar, il y allait pas mal.
Oui, de façon toastamment, oui, voilà. Comme on dit.
Autre exemple, on parle de Mordecai Richler, et là, l'Association des directeurs généraux des commissions scolaires anglophones, donc faisant partie de ce regroupement, aurait demandé à ce que Mordecai Richler soit ajouté à une courte liste d'artistes francophones. On rappelle que M. Richler a déféqué sur le Québec à peu près toute.
Moi, je dis, c'est un carrière. Grand écrivain, mais c'était pas notre grand ami.
En fait, c'est
exemple.
Un grand écrivain et c'est un grand francophobe en même temps.
Oui. Je pense qu'ils ont confondu francophone avec francophobe.
On se rappelle qu'en 76, il avait dit, en fait, il parlait des nazis du Parti québécois qui auraient adopté un chant des jeunesses hitlériennes, qui était la chanson « À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient ». Il disait ça dans ses chroniques à gauche et à droite. Richler a avoué, en fait, a prétendu qu'un des buts avoués de la rébellion, la rébellion des patriotes, c'était d'étrangler tous les juifs du Haut et du Bas-Canada et de confisquer leurs biens. Il n'y a rien de ça qui est avéré dans aucun document. Il y a Pierre Neveu, d'ailleurs, l'intellectuel, professeur en littérature à l'Université de Montréal, qui dénonçait en fait des propos de Richler en 91, qui disait que les incidents antisémites étaient beaucoup plus nombreux au Québec qu'en le reste du Canada, et les faits. Et là, Pierre Neveu est allé chercher les faits, les chiffres auprès du Congrès juif canadien et du B'nai B'rith, qui indiquaient plutôt le contraire, c'était l'inverse. C'était dans le reste du Canada qu'il y avait plus. Donc c'est quelqu'un qui a œuvré dans son rôle de polémiste, on l'entend. Je pense qu'il y avait une game médiatique de sa part.
J'ai rien contre les polémistes, mais il faut qu'ils disent la vérité.
Et de là en faire un artiste francophone pour plaire à des dictats politiques, moi je trouve que c'est pousser le gaz un petit peu loin. D'ailleurs, le Congrès juif canadien s'est dissocié plusieurs fois des propos de Mordecai Richler. Alors, c'est pas une fabulation des mouvements nationalistes, là, tout ça. Et ça, par contre, cette demande-là, le ministère de l'Éducation y a acquiescé. C'est ce que les documents que le Devoir a mis, en fait, nous révèlent ce matin. C'est qu'ils ont effectivement, et là, c'est dans le livre d'histoire, c'est au lendemain de la Révolution tranquille, le milieu culturel, doté d'une première politique, est effervescent avec les Pauline Julien, Félix Leclerc, Alfred Pellan, Mordecai Richler et Michel Tremblay. Oui. Et là, ça, c'est en 2017.
Tu peux y mettre, mais pas dans le même paragraphe, d'après moi.
Oui. Et je pense que, encore une fois, c'est important de parler de Mordecai Richler dans nos cours d'histoire.
Il en a fait partie, oui. mais mettre dans le même paragraphe
gommer,
que ces autres
artistes-là.
Mais
pas gommer non. Ce qu'il disait sur la majorité. Évidemment, c'est une autre époque. Là,
quand tu passes à l'histoire, il faut que tu passes à l'histoire avec tout ce que tu as fait. Oui. Le bon comme le mauvais.
Tout à fait.
Il faut que ça soit mentionné. C'est parce qu'on a le droit à chacun notre opinion, mais on n'a pas le droit à chacun nos faits.
Ben exactement. Évidemment, c'est difficile parce que, on l'a dit tantôt, c'est très politique tout ça. Et la façon de raconter son histoire, son récit, elle est différente chez les anglophones, c'est certain. Parce que le regroupement disait... d'ailleurs, les anglophones n'utilisent pas le mot « conquête » quand ils parlent de 1760. Évidemment qu'ils ne parlent pas de conquête. Je pense que les Américains ne parlent pas non plus ne parleront pas dans leur récit collectif de la guerre d'invasion d'Irak dans les années 90-2000. C'est ça, je veux dire.
La guerre de libération.
Ben non, ouais, exactement.
La guerre de libération du pétrole.
Et là, j'ai hâte de voir si ces partenaires du réseau d'éducation de la communauté anglophone, comment ils vont réagir au changement de nom de la rue Amherst, qui a été rebaptisée la rue Adadegan, qui veut dire frère et sœur ou en langue mohawk. Rappelons-le, Amherst, britannique.
C'est le
responsable
de la
première guerre bactériologique répertoriée, ouais. Qui a contaminé des couvertures, qui voulait qu'elles soient un petit peu laissées comme ça aux mains des Delaware, des Shawnee et des Mingo. Et là, je veux pas dire que
c'est moins chevalier la guerre.
Je veux pas dire que les Anglais d'aujourd'hui descendent de ça, mais s'il vous plaît, là, ne jouons pas trop avec l'histoire.
Alors, c'était la chronique de Fred Savard. Merci beaucoup. Nous autres, après la pause, est-ce que Jim Carrey est aussi bon dessinateur que comédien? Alors ça, c'est notre chroniqueuse Valérie Roberts qui va nous donner son verdict. À tout de suite. Merci, mon frère.